Et on va plonger dans l'univers de Joris avec le titre de 4 Ici los dramas.
Ici los dramas. No existirán. Ici los dramas. Nos los creáramos.
Aérien morceau pour te rencontrer, Joris. Tu peux nous dire un petit peu, ben voilà, cette formation 4, le rôle qu'elle joue dans ton parcours, comment...
Ouais, tout à fait. 4, c'est un trio.
Voilà, donc voilà. On commence toujours avec un petit décalage avec Joris.
voilà, en tout cas, au moins un problème arithmétique. C'est un trio qui est composé de 2 chanteuses et d'un guitariste, donc moi. Dans lequel on écrit tout à deux, Manon et moi, et on essaye de... Comment expliquer ça ? Moi, j'avais jamais connu ça, c'est vraiment un processus de création ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est de Manon, rien qui est de moi à la fin. Dans ce qu'on entend, c'est vraiment une tentative de créer un univers musical qui nous ressemble à tous les deux. Et ça, c'est une façon de travailler qui est devenue assez rare, que moi j'ai rarement fait l'expérience, et c'est extrêmement intéressant. Enfin, alors du coup, ça fait des temps de création qui sont beaucoup plus longs, ça fait une musique qui est qui rentre moins dans les clous aussi de ce qu'on entend d'habitude. Mais par contre, c'est une aventure artistique hyper intéressante. Voilà. Et, on a la particularité qu'il y a donc deux chanteuses qui chantent en harmonie ou en décalage quasiment tout le temps et avec une écriture vocale qui est pas très conventionnelle, on va dire. Donc moi, ça c'est pas trop mon côté, mais Jeanne et Manon ont vraiment une manière de se positionner sur la mélodie qui est pas du tout naturelle. Et voilà. Et ça, c'est un gros travail qu'on met en place, vraiment d'écriture voix par voix. Et donc on considère que les trois instruments sont au même niveau et que chacun on a une voix et qu'on va écrire ça presque comme je sais pas une partition classique ou quelque chose comme ça.
Donc là, on comprend la facette compositeur de ton parcours artistique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben, justement, en quoi consiste ce parcours, ta rencontre avec la guitare, à quel moment ça s'est fait, comment ça s'est fait, et comment tu t'es formé
La rencontre avec ma guitare, j'étais vraiment petit. Mon père avait une guitare à la maison et un disque de Paco de Lucía. Et ce disque me fascinait totalement, mais j'étais tout petit, hein, j'avais 4-5 ans. Et il jouait un morceau de blues, et le turnaround à la fin du morceau, le Toby, tout a dit, tout a dit, pipa. Ça me fascinait complètement, et j'ai voulu apprendre à jouer de la guitare pour ça. Et voilà, j'ai commencé à 5 ans en étant très persuadé que je serais musicien, que je deviendrais guitariste à terme. Et c'est ce qui s'est passé. Alors je sais pas si ça témoigne d'une grande obstination ou d'une étroitesse d'esprit assez caractérisée. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
Et donc ensuite, tu t'es formé, tu as fait des conservatoires.
J'ai pris des cours de guitare quand j'étais enfant, avec un prof particulier. Après, j'ai fait le lycée Saint-Sernin en option musique. À ce moment-là, je prenais aussi des cours à musical. Et après, je suis passé par le conservatoire. Et là, ça s'est très mal passé. Et donc, je suis parti assez rapidement. Et je suis devenu musicien à ce moment-là, à peu près. Pendant que j'ai la dernière année que j'ai passée au conservatoire, j'ai commencé à faire beaucoup de dates en duo avec un harmoniciste. Et puis à partir de là, bah, j'ai toujours joué.
Et donc là, c'est peut-être l'occasion de parler de tes sources, enfin de tes inspirations. Ce duo avec l'harmoniciste, c'était très blues.
Ouais.
Donc.
Tout à fait. Mais ça a fait. Quand j'étais ado, j'ai découvert le rock, j'ai trouvé ça formidable, comme beaucoup d'ados à mon âge. Enfin, à l'époque où j'étais ado, en tout cas. Et puis, en s'intéressant à l'histoire de la musique, on se rend compte vite que c'est une musique qui vient de la musique noire américaine. Donc j'ai commencé à m'intéresser au blues. Par là, j'ai découvert le jazz. Après, petit à petit, on remonte comme ça des branches du grand arbre généalogique de la musique. Et moi, ce qui m'a toujours touché, c'est la musique, comment dire ça ? Il y a quelque chose, dans la musique nord-américaine particulièrement, il y a une urgence à faire, à dire quelque chose, que ce soit dans le blues, qui est une musique très simple et qui permet d'aller directement dans un sentiment très très fort par une nomenclature qui est toujours la même, qui est très répétitive et qui va vraiment laisser la place à l'expression. Ou alors, par le jazz, ça va aller à la même chose, mais par un chemin complètement différent, qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement complexe, mais qui va amener, chez par exemple Miles Davis ou Coltrane, à quelque chose qui va être aussi déchirant, aussi incarné musicalement que chez les bluesmen. Et en fait, ça, c'est deux facettes de l'expression en musique qui me fascinent complètement. Et moi, j'ai essayer de faire mon chemin au milieu de ça, avec en plus une formation classique au milieu, et du coup essayer d'aller récupérer un petit peu des façons de concevoir la musique là-dedans, quoi. Donc j'ai fait du blues, j'ai fait du jazz, j'ai fait du rock, j'ai fait du classique, mais dans tout ça, j'ai toujours essayé d'aller chercher une précision émotionnelle avant toute chose.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qui ressort beaucoup de tes concerts où on sent qu'il y a une communion avec le public, un échange de cet ordre-là.
Oui, alors après, il y a aussi ce que je fais aujourd'hui en tant que musicien en solo, qui est encore différent parce que je voulais pas juste arriver et parce qu'en plus ce que je fais est relativement virtuose entre guillemets, enfin c'est à dire que il peut y avoir un côté où j'arrive et je fais ah, regardez je joue super bien de la guitare et j'avais pas du tout envie de faire ça et surtout j'avais vraiment envie de couper avec ce côté un peu de la musique classique où regardez je joue bien droit je suis bien et donc j'ai commencé par arriver sur scène et raconter des conneries, énormément de conneries. Et petit à petit, c'est devenu raconter des histoires. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que en fait, c'était ça qui m'intéressait avec la musique, c'était raconter des histoires, que toute la musique que j'écris moi dans ma tête, c'est un film. Et que en fait, cette espèce d'échange-là où je raconte quelque chose et après je joue, et du coup le public se fait un peu son propre film dans la tête, c'était un truc que j'avais envie de creuser. Et aujourd'hui, vraiment, la recherche que j'ai autour de mon solo, c'est pas que de la musique. C'est raconter une histoire par la parole et par la musique.
Oui, c'est ça. Donc ton rapport aux mots n'est pas de joindre directement les paroles à la musique comme vous le faites, par exemple, dans la formation 4.
Non,
mais
oui,
plutôt cette alternance entre les évocations parlées et puis ensuite la...
Oui, voilà, en fait, ça se rapproche un peu de l'art du conte, par exemple. Et c'est, voilà, il y a des moments de parole, des moments de guitare.
Et c'est ce qui justifie ta présence aussi dans cet événement, la Nuit d'Islam, dont on parlait tout à l'heure, qui se décline aussi dans d'autres villes, et en particulier dans la salle Arcade, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais, alors, c'est pas dans la salle Arcade, là, mais c'est co-organisé par Arcade. C'est à Castelnau-d'Urban, je crois, cette année.
Le vendredi 22 mars.
Ouais, tout à fait. Et oui, de toute façon, moi, je travaille avec des slameurs depuis très longtemps parce que ils ont cette force-là, cette capacité à raconter des histoires. Et du coup, Arcade cette année m'a proposé de participer à toutes leurs activités. Ils ont une quantité d'activités qui est extraordinaire. Et moi, très rapidement, j'ai dit ah oui, pour le coup, aller travailler avec les slameurs, ça m'intéresse beaucoup parce que raconter des histoires, ça m'intéresse beaucoup.
Bah peut-être tu nous en racontes une alors.
Mais je vais raconter une histoire et puis je vais jouer le morceau qui va avec.
Ah bah ouais, avec plaisir.
Allez, super.
On est tout oui.
Il y a un préambule quand même qui est que je me suis cassé un ongle hier soir en répétition.
Pas d'excuses.
Et alors je suis extrêmement embêté parce que jouer de la guitare avec un ongle cassé pour moi c'est vraiment très embêtant. Donc je vais jouer un morceau que j'avais pas prévu de jouer en espérant que ce soit un peu plus faisable. Mais bref. Donc je vais jouer un morceau qui s'appelle Le chemin du chien Jacques. C'est un morceau que j'ai composé en 2020, après être allé me promener sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Donc j'avais eu un accident de la route, et comme beaucoup de gens qui ont failli mourir, je suis allé faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. C'est vraiment une sorte de rituel chez les gens qui ont failli mourir. Et j'ai eu l'idée un peu bête de partir en février pour faire ça. Et donc je me suis retrouvé tout seul sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai commencé au niveau de l'Aubrac, au moment où il gelait encore toutes les nuits, où les hébergements municipaux dans lesquels on dort en général sont tous fermés. Et je me suis retrouvé rapidement à faire des très très grandes distances pour pouvoir trouver des endroits où dormir. Et puis à rencontrer absolument personne, parce que vraiment, dans l'Aubrac en hiver, de toute façon, on ne croise pas beaucoup de gens. Tant et si bien qu'en fait, à un moment, j'ai arrêté de dormir dans des gîtes, et je me suis mis à marcher de nuit, et à dormir sur le chemin pendant la journée, parce que c'était un moment où il faisait extrêmement beau. Et donc je pouvais me permettre de dormir la journée, et donc je marchais la nuit, on était aux alentours du moment de la pleine lune. Et au bout de 3 jours, comme ça, je commençais à m'ensauvager assez sérieusement. Et je me suis fait un pote sur le chemin. Donc je sortais de Cajar. Et puis je croise quelqu'un, on échange un peu. Et puis je reprends ma route et il me suit. Et je pensais qu'il allait me suivre jusqu'à chez lui pendant quelques minutes ou heures, comme ça. Et en fait, on a passé donc 4 jours ensemble. Moi, je marchais beaucoup quand même. Et lui, il courait toute la journée autour de moi. Donc je l'avais appelé Jacques, parce que je trouvais que c'était un chouette nom pour un chien qu'on rencontrait sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà, on a passé ces quelques jours comme ça à se promener. Et puis on a vécu des choses assez folles. Notamment, on a dormi chez les bonnes sœurs ensemble, parce qu'il y avait des fois où j'avais pas d'autre choix que de dormir chez les bonnes sœurs. Et donc, le premier soir, je suis arrivé chez les bonnes sœurs avec ce chien et je me suis excusé, je ne savais pas comment elles allaient le prendre. Et donc, elles l'ont très bien pris parce que dans leur tête, c'était vraiment le signe que j'étais accompagné dans mon chemin, voilà, par une présence. Alors, elles n'ont pas précisé de quelle sorte, mais bon, on avait compris. Et moi, ça m'amusait beaucoup parce que ce chien était c'était une sorte de bâtard avec les yeux verrons, pas très très intelligent, extrêmement gentil, mais vraiment pas très malin. Et voilà, donc avoir mon envoyé divin comme ça, qui me regardait avec la tête penchée toute la journée, ça m'amusait beaucoup. Donc voilà, ils lui ont donné du jambon à manger, puis il a dormi sur un lit ce soir-là, et puis à partir de là, il m'a plus lâché, quoi. Et vraiment, il me suivait partout. Et ça a duré 4 jours, et au bout de 4 jours, je me suis retrouvé à arriver pas très loin de Cahors. Et en fait, cet animal n'avait aucune conscience du danger que pouvait représenter, par exemple, une voiture. Donc je me suis retrouvé à le prendre dans mes bras. Donc il faisait bien ses 30 kilos. Et donc je me suis retrouvé à traverser tout Cahors avec ce chien dans les bras, à aller chez un vétérinaire, chercher s'il avait une puce pour appeler ses humains habituels. Donc ça a marché, ils sont venus le chercher. Moi, j'ai passé une heure devant le vétérinaire avec le chien dans les bras à me demander si je me barrais parce que maintenant c'était mon chien pour toute la vie ou pas. Puis finalement je l'ai laissé partir avec eux. Ils m'ont filé 50 balles pour avoir retrouvé leur chien. C'était assez étonnant comme situation. J'ai essayé de leur expliquer que je leur avais plus pris leur chien, enfin que en tout cas leur chien avait eu l'air d'avoir très envie de partir avec moi, mais bon. Voilà, donc il est reparti avec eux, et puis moi je suis rentré, en fait je me suis dit qu'à partir de là, la suite allait être assez ennuyeuse. Et j'ai pris le train, je suis rentré à Toulouse, et j'ai écrit ce morceau. Et, alors, et donc moi, je marchais toute la journée avec un certain entrain, donc je me suis demandé comment ça pouvait faire musicalement, si je tentais de reproduire ça. Et donc je suis arrivé avec ça. Ça correspond à peu près au rythme auquel je marche, comme ça, pendant toute la journée. Après, je marchais 8 heures par jour ou par nuit. Donc ça, pendant 8 heures, c'est vrai qu'au début, c'est sympa, mais on peut s'ennuyer. Et alors, heureusement, le chien arrive à un moment. Donc je l'ai dit, le chien, il courait toute la journée comme un fou autour de moi. Et donc ça a donné ça. Et allez, je vais changer de micro.
Un petit aperçu de cette poésie qui se distille des mots vers les notes et des paysages sonores qui se créent à cette occasion. Alors, Joris, tu as un rapport à la guitare qui est un peu sauvage aussi. Il n'y a pas que le rapport à l'errance qui est sauvage. On te voit jouer de façon un peu pas très conforme à ce à quoi on est habitué. Et c'est quelque chose que tu as construit toi-même ou...
Ouais, tout à fait. C'est beaucoup d'expérimentation, effectivement. Là, sur ce morceau, ça reste assez conventionnel, mais je fais beaucoup de tapping, de trucs en tapant sur la caisse de la guitare et tout ça. Moi, c'est un jeu. C'est une guitare, c'est une caisse en bois avec des cordes qui sont tendues dessus, et il y a plein de manières de taper dessus pour faire des sons.
Mais ça rend la chose aussi spectaculaire à voir, en fait. C'est pour ça que je le souligne, parce que, évidemment, y a un effet, un rendu à l'oreille, mais te voir jouer, c'est assez, assez impressionnant et assez spectaculaire.
Bah, tant mieux.
Et donc, on a beaucoup parlé de la guitare, de ton parcours avec la guitare, ouais. Mais il y avait un autre mot dans ce qui te désignait, c'était cycliste.
Ouais, tout à fait.
Donc, est-ce que tu m'amènes ton vélo comme tu m'amènes ta guitare?
Ah oui, tout à fait. Tout
tu
à
lui
fait.
Tapes absolument.
Dessus Non, je lui tape pas dessus, mais je lui fiche 40 kilos devant. Donc, je fais des tournées à vélo, parce qu'on l'a pas dit clairement.
Voilà.
Mais la plupart de mon activité aujourd'hui, c'est de me déplacer sur un vélo cargo pour aller faire des concerts et donc je mets deux guitares, une paire d'enceintes, un charlet et une table de mix à l'avant de ce pauvre vélo tous les jours. Donc oui, je pense que c'est une manière de... Et après je monte d'école, je pense que c'est une manière de le malmener. Ouais.
Tu l'as nommé, c'est ça? Il s'appelle Bobby,
ouais.
D'accord, mais c'est un vélo que tu as conçu toi-même ou qui existait
non,
déjà?
Non, Bobby, c'est le nom de la marque, en fait. C'est le gars qui l'a fabriqué à une marque qui s'appelle Bobby Cargo.
D'accord. Donc, ce rapport au vélo, ça te vient d'où? Quelle est cette idée? Alors, on a reçu ici Manu Gallure qui faisait ses tournées
ouais.
à pied.
Tout à fait. Oui, alors, pour le coup, Manu, c'est clairement une inspiration. Il a commencé à faire ça dans un moment où il se sentait, je pense, très enfermé dans sa pratique musicale. Enfin, en tout cas, pas dans la pratique, mais en tout cas dans les modes de diffusion de nos pratiques musicales. Et en fait, j'étais en train d'expérimenter la même chose à ce moment-là. Et,
donc, c'est-à-dire
Bah, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le réseau des musiques actuelles. Donc moi, j'ai beaucoup gravité là-dedans. Donc c'est vraiment un réseau professionnel avec un mode de développement qui pourrait être assez sensible à celui d'une start-up. D'ailleurs, la plupart des groupes de musique ne se définissent plus comme des groupes de musique, mais comme des projets musicaux. Et moi, j'ai beaucoup souffert de ça. Donc j'ai eu un groupe qui a eu un petit début de succès à un moment. Et c'était bien, on a fait des très très grosses scènes où on jouait devant plein de gens, c'est très valorisant. Et en même temps, je me sentais très embêté. Bah tiens, on parlait des mineurs isolés tout à l'heure. On a joué pour la mairie de Toulouse en 2016 ou 2017, je crois. Juste après qu'ils avaient supprimé le plateau de découverte de la c'était qui faisait ça, c'était Joël Sorin, je crois, qui organisait un plateau découverte pour la fête de la musique avec que des artistes toulousains. Ils avaient fait sauter ça pour faire venir je sais plus France 2 ou TF1 pour faire un énorme truc place du Capitole, et donc nous on nous propose de participer à ça et ben on n'a pas trop d'autre choix que de dire non que de dire oui. Moi je voulais dire non, ouais, voilà. Et en fait une semaine avant ça je jouais pour Autonomie et je supportais pas en fait cette espèce de d'hypocrisie à faire ces deux trucs là et en fait à un moment j'ai dit il faut sortir de ce modèle là. Et en plus de ça, on passe. Du coup, une fois qu'on est rentré dans ce modèle-là, eh ben, il faut aller jouer à Bourges, parce que c'est important d'aller jouer à Bourges, il faut aller faire tel festival. Et dans tout ça, en fait, on ne se pose aucune question environnementale. On coche un peu tous les trucs. Et en fait, moi, j'ai eu un producteur à un moment qui me disait, mais Je m'en fous de savoir si c'est plus intéressant de faire des dates sur la route, parce que les dates sur la route, je vais pas les vendre assez cher pour gagner de l'argent dessus. Et donc tu vas aller à Bourges, tu vas faire ton concert, tu vas rentrer et 10 jours après, tu vas repartir à Auxerre.
Et donc là, il y a une espèce d'inversion du processus, c'est-à-dire que tu crées la route et tu cherches les occasions de jouer sur la route.
Exactement. Là, l'idée, c'est de vraiment prendre le problème à l'envers. Ma façon de travailler, en général, c'est de dire, tiens, il y a une piste cyclable à tel endroit. Donc c'est intéressant, je vais aller à Nantes. La première, on l'a faite comme ça. Prenons la Vélodyssée, allons à Nantes, qu'est-ce qu'il y a sur la route ? Et du coup, tu construis la tournée plus pour être logique avec un itinéraire que parce que telle date, c'est super intéressant.
Et donc, dans ta tournée, si j'ai bien compris, il y a des concerts, bien sûr, mais il n'y a pas que ça.
Alors là, cette année, l'avantage de travailler avec Arcade, c'est que c'est l'occasion de construire plein d'autres choses, parce que je travaille avec un médiateur culturel toute l'année, et donc on a mis en place tout un tas d'actions culturelles tout au long de l'année. Donc il y a le travail qui est fait avec les slameurs, il y a un travail avec l'ASEI de Ramonville, où on a accueilli des enfants qui sont soit déficients visuels, soit qui ont des troubles du langage, pour écrire avec eux, avec un slammer d'ailleurs, pour écrire de la musique avec eux, et ils vont me rejoindre pendant la tournée vélo. On va essayer de les mettre sur des vélos adaptés pour qu'ils viennent faire des tours de vélo avec nous. Va y avoir des interventions scolaires, parce que j'ai une petite intervention là qui est prête pour aller parler de à la fois d'enjeux écologiques, mais aussi des solutions un peu joyeuse qu'il peut y avoir quand on commence à parler de décroissance et tout ça. Comment on fait pour pas voir ça de manière négative? Voilà, c'est les principales. Après, il y a plein de petites choses qui se font tout au long de la tournée.
Et donc, ta tournée commence en avril?
Ouais.
Il y a un certain nombre de dates qui sont déjà fixées.
Elles sont quasiment toutes fixées, mais j'ai pas encore le droit de les dire, parce qu'il y a encore deux trois trucs qui peuvent bouger. Mais en gros, on va commencer autour de Saint-Giron, autour du 11 avril. Enfin, la première date est le 11 avril. On va rester là-bas jusqu'à la moitié du mois d'avril. Ensuite, je vais venir faire une date à Toulouse, à la Maison du Vélo, le 30 avril ici, le 26 à Riom, à la Maison de la Terre. Et après, je repars en Ariège, et en mai, je suis aux alentours de Massat, et en juin, aux alentours de Pamiers et Foix.
Donc, toutes ces informations seront disponibles sur le site d'Arcade ?
Tout à fait. Il y a une newsletter Arcade à laquelle on peut s'inscrire.
D'accord, la newsletter. Et aussi, on a la possibilité de créer des concerts à domicile, si j'ai bien compris.
Non, du coup, là, c'est pas... Il y a déjà 40 concerts
c'est
sur
terminé.
La tournée.
C'est il fallait s'y prendre avant.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment où juste il y a un risque de mort.
Oui, bah surtout que t'as pas choisi le département le plus plat pour faire du vélo.
Et non, mais il se trouve que c'est là qu'on trouve les militants écologistes les plus rigolos. Donc, on a fait...
Mais Joris, on te remercie beaucoup. On va venir te voir. Alors moi, je te promets pas de venir à vélo,
mais
je viendrai avec mon EcoCup que je traîne partout. Ça compensera peut-être les dépenses en carbone.
Faible compensation.
Faible compensation.
Sinon, juste une dernière chose pour avoir les infos. Sinon, on les trouve aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, @JorisRagel sur Facebook, Instagram.